Pour cette troisième partie de ce Radio Barque, donc notre invité est François Lietta. Alors, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, François Lietta. Vous êtes relativement jeune, mais vous avez déjà une bonne carrière politique dans la mesure où on vous a connu comme responsable des jeunes pop, je crois, à l'époque. Puis, vous avez gravi les échelons puisque vous êtes devenu, il y a peu, président du parti Les Républicains, charge que vous avez abandonnée récemment pour dire clairement, là encore, que vous vous consacriez à la conquête d'une commune, en l'occurrence Saint-Laurent de la Salanque, où vous résidez, j'imagine. Alors, François Lietta, on va commencer quand même justement par cette conquête, cette candidature à cette commune, parce que c'est intéressant, alors, de voir la façon dont ça se passe chez vous. Il y a énormément de communes qui font plus de 10 000 habitants dans la couronne ou la ceinture perpignanaise. Saint-Laurent de la Salanque en est une, ce qui amène à une certaine méthode, une certaine stratégie qui serait très différente, par exemple, de la conquête d'une petite commune de 500 ou 1000 habitants, comme il y en a. Pouvez-vous nous dire d'abord quel est votre cheminement intellectuel qui vous amène là où vous en êtes aujourd'hui ?
Écoutez, la candidature aux élections municipales est toujours une chose de réfléchie. Elle n'est pas ni spontanée ni non préparée. Pour ma part, c'est que je fais un constat, c'est que la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque a beaucoup évolué, puisqu'il y a moins de 20 ans, il y avait bien évidemment moins de 10 000 habitants. Donc c'est une commune aujourd'hui qui les dépasse de 10 000 habitants, ce qui n'était déjà même pas le cas en 2014. Donc c'est une commune qui grandit, qui change, mais qui aussi s'affaiblit sur certains domaines et sur lequel la municipalité est absente, ou laisse faire, ou se sent impuissante, ou en tout cas se prend plaisir à être impuissante et à le dire qu'elle l'est, même si ce n'est pas vrai, parce que je pense qu'un maire et une municipalité sont là pour être dans l'action et au contraire ne pas se déclarer impuissant, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de diriger une commune. Donc je fais le constat que cette commune...
Alors juste une parenthèse, oui. Saint-Laurent-de-la-Salanque est dans la métropole... Enfin,
dans la communauté urbaine. La communauté urbaine, ça, bien sûr. Oui, donc tout à fait, avec évidemment la limitation de l'action municipale, mais... Quand vous êtes dans une métropole, il y a toujours des élus, y compris le maire, qui siègent dans la communauté urbaine et qui, eux, ont fonction aussi d'être le relais de ce qui se passe dans la commune pour que la communauté urbaine corrige.
Doit d'ailleurs, se faire entendre.
Exactement. D'ailleurs, la communauté urbaine a quand même une action qui est assez responsable de dire les maires sont chez eux les maîtres, entre guillemets. Donc, ça veut dire que quand l'action de la communauté urbaine est décidée sur la commune, elle est approuvée par la majorité en place, et la communauté urbaine n'implante pas des conteneurs, ne décide pas des tournées, ne décide pas un certain nombre de choses si le maire n'est pas d'accord. Donc ça veut dire qu'elle laisse la communauté urbaine, délègue en quelque sorte son pouvoir au maire qui valide les décisions de la communauté urbaine dans son territoire. Ce qui est une chose un petit peu intelligente qui permet quand même aux mairies d'être efficaces, pour peu qu'elles le soient dans la façon dont elles agissent.
Donc à partir de ce constat, puisque vous y habitez, que vous faites, c'est là, c'est ce qui va constituer, si je puis dire, votre angle d'attaque pour votre candidature.
Oui, c'est de dire que la gestion qui est actuellement menée par la majorité En Marche, il y a une autre alternative qui est possible, c'est celle que je vais porter avec l'équipe qui m'accompagne déjà aujourd'hui au quotidien pour à la fois être connu des Laurentins et à la fois pour constituer un programme électorale qui tienne la route, qui soit cohérent et pour lequel, bien sûr, on adhère.
Alors, quelques exemples concrets, déjà, sans dévoiler forcément quelle sera toute votre stratégie et votre programmation.
Par exemple, il y a dans le secteur économique beaucoup à faire sur Saint-Laurent-de-la-Salanque, puisque Saint-Laurent...
Est-ce que c'est une ville dortoir ?
Ça le devient parce que j'observe que de plus en plus de Laurentins viennent travailler à Perpignan ou autour, dorment à Saint-Laurent, ne s'investissent pas dans les activités de Saint-Laurent et vont dans d'autres communes voisines pour les activités, pas forcément associatives, mais activités culturelles, les spectacles, tout ce qui peut exister dans une vie sociale. Donc la vie économique aussi est sinistrée, le cœur de ville est abandonné, clairement, par la municipalité, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan de la population, et également sur les périphéries sur lesquelles il existe encore des possibilités économiques, rien n'est fait, rien n'est mené, alors que aujourd'hui, si une ville veut perdurer, comme Saint-Laurent-de-la-Salanque et ne pas être dortoir, Saint-Laurent n'a pas d'accès à la mer, donc n'est pas une commune touristique à proprement dit, il faut qu'elle développe dans d'autres secteurs.
Elle n'a pas accès à la mer alors qu'elle touche le Barcarès.
Voilà, mais si vous voulez, Barcarès, c'est la littorale de Saint-Laurent, puisque à l'époque, Barcarès, pardon, n'existait pas, c'était Saint-Laurent, il y a bien longtemps, ni moi ni vous ne l'avons connu, mais Aujourd'hui, Saint-Laurent doit exister autrement que par la mer et par l'attrait touristique. Barcarès existe par cela en période estivale et par d'autres moyens à l'année. Et c'est à nous aujourd'hui à Saint-Laurent à trouver un moyen d'être un vecteur fort de la Salanque, de retrouver cette statue de capitale de la Salanque que nous avons d'une certaine façon perdue à Saint-Laurent-la-Salanque. Par des actions à mener dans la commune. Je vous dis que ce soit le cœur de ville, que ce soit l'économie et bien d'autres sujets sur lesquels la municipalité est absente ou l'a délaissée parce qu'elle ne pense pas forcément à long terme.
Alors est-ce qu'il y a par exemple une zone d'activité ?
Oui, elle existe, elle avait été réalisée par les précédentes majorités, mais elle stagne. Voilà, elle ne se développe pas, elle ne bouge pas et il n'y a pas de projets qui sont menés dans ce domaine-là par la majorité actuelle. Qui vous dira que c'est de la métropole qui s'en occupe ? Mais en réalité, c'est le maire qui l'impulse.
Oui. Et d'après les documents que vous avez commencé déjà à publier, j'ai vu que vous vous intéressez beaucoup à l'urbanisme. Alors c'est une vieille commune, comme beaucoup qui remontent à la grande époque catalane, avec des cœurs de villes ou de villages anciens, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et alors dites-moi comment vous voyez la façon dont ça se passe au niveau de l'urbanisme. Parce que vous avez des désaccords marqués, me semble-t-il.
Oui, parce que le cœur de ville, comme beaucoup de cœurs de ville, malheureusement, à la fois le commerce souffre dans ce secteur-là, et à la fois la population qui s'y installe ou qui s'y développe est souvent une population qui se paupérise. Parce que les cœurs de ville, souvent, les biens sont moins chers. Les propriétaires qui, pour certains, ne vivent pas dans la commune et sont limites d'être des marchands de sommeil, le louent à des prix, on va dire, sans trop demander les conditions. Donc il y a une population qui est paupérisée, pour lesquelles il ne faut pas laisser cette population continuer à se paupériser. Donc il faut l'aider à s'accompagner et à en sortir. Or, j'observe que sur l'action commerciale en cœur de ville, rien n'est fait. Sur le logement, là où devrait être en réalité le cœur de ville aéré, il va être densifié. Et dans ce premier document que j'ai diffusé, je reproche à la majorité d'avoir choisi de construire sur une ancienne grange 18 logements sociaux, dans des rues où il y a déjà des problèmes de paupérisation, où il y a un stationnement qui est quasi impossible. Donc derrière, ça veut dire que ça va amener d'autres problèmes de voisinage, d'autres problèmes de stationnement, et derrière, le risque que les autres maisons autour perdent, entre guillemets, de la valeur, et que donc une autre population vienne s'y installer, peut-être paupérisée, et qu'il faudra également s'occuper à s'en sortir, mais comme il n'y a aucune action par la majorité actuelle, on risque d'avoir une sorte de gangrène et donc de ce problème qui ne sera pas résolu parce que la majorité ne le prend pas en place. C'est-à-dire que la majorité a une approche comptable disant « j'ai de la place, je fais du logement ». Oui, mais quelles sont les conséquences derrière ? Et la majorité ne l'a pas mesuré. C'est-à-dire que c'est le drame de En Marche, hein, c'est du en même temps. C'est-à-dire que le PLU disent les études « il faut aérer le cœur de ville », mais en même temps on le densifie. Voilà, donc c'est de l'incohérence.
Oui, c'est-à-dire que implicitement, vous sous-entendez que si vous étiez maire, vous détruiriez.
Ah, je ne l'aurais pas fait ce projet. Je ne l'aurais pas fait.
D'îlots, vous détruiriez un certain nombre.
Oui, il y a un certain nombre de choses que je n'aurais pas fait, mais ce projet-là, par exemple, je ne l'aurais évidemment pas fait. J'aurais évidemment détruit cette grange qui ne sert plus à rien et qui n'est plus exploitable pour en faire autre chose. Ben, soit vous l'aérez et vous créez, par exemple, soit du stationnement parce que c'est aussi un problème au cœur de vie, soit vous créez un espace de vie, on va dire un peu. Pardon ?
Vert.
Ou... Non, mais voilà, un espace vert ou un espace de jeu, quelque chose qui permette au quartier de vivre ou du moins de régler un certain nombre de problèmes qu'il rencontre. Et une densification ne réglera pas ce problème-là.
Alors, on sait que dans les villes, il y a le problème des déchets et vous critiquez le fait qu'un certain nombre de containers soient enterrés dans cette commune. On a l'impression que pour beaucoup, c'est plutôt un progrès, c'est la panacée. Vous semblez tout à fait en désaccord là-dessus.
Alors, je le conçois en cœur de ville parce qu'effectivement, ça libère de la place parce que souvent, les conteneurs des maisons de cœur de ville restaient dehors, donc ça donnait pas forcément une image très propre. Ça, je l'entends. Le problème de ces conteneurs, c'est qu'ils sont devenus à la fois des décharges. Vous y trouvez régulièrement. Moi, j'y trouve à côté de chez moi un matelas puisque je vis en cœur de ville. Hein. Donc, j'y trouve des matelas, des frigos, des télés, enfin, tout ce qui n'a pas à être là. Donc, quand ce n'est pas clairement des vidanges de voitures ou des déchets qui pullulent. Donc, ce que je reproche, moi, à la fois aux conteneurs enterrés, c'est que en cœur de ville, je comprends la logique. Lorsqu'il commence à arriver en limite de lotissement, quelle est la politique derrière ? Est-ce que pour le même taxation d'ordures ménagères, un service qui est finalement moindre puisqu'on ne vient pas chercher vos conteneurs, quelle est aujourd'hui la logique de continuer à conteneuriser entre guillemets, de plus en plus la commune. Ensuite, il y a un problème aussi d'organisation, puisque il y a des gens qui se sont réveillés un matin avec un trou devant chez eux, en leur expliquant qu'on allait leur mettre des conteneurs enterrés.
Ah, ils n'étaient pas informés.
Non, ils n'étaient pas informés. C'est-à-dire, c'est pas fait en concertation, c'est fait, c'est imposé. Il y a de la place, je mets un conteneur. Bon. Moi, j'ai pas cette notion de municipalité de proximité. Pour moi, la municipalité de proximité, elle va dialoguer avec les riverains, elle va expliquer ce qu'elle veut mener, et puis elle voit. Alors, certes, on peut pas satisfaire tout le monde, je l'entends, mais il y a un moment donné où il faut quand même être à l'écoute, et quand même, quand on se retrouve avec quelqu'un qui a devant son salon le conteneur, alors il a réussi à faire inverser le conteneur des déchets par celui des conteneurs recyclables, bon, c'est quand même déjà un peu limite. Et il y a un deuxième problème, c'est que je reproche, à tarif constant par rapport à avant, il y a moins de collecte l'été. Donc l'été, les bacs se remplissent plus vite, derrière des problèmes olfactifs, voire voilà, peut-être d'hygiène.
Inutile de le préciser. Alors justement, pour cette proximité, cette concertation continuelle, vous allez faire une liste. Cela va de soi. Vous avez un passé et un présent très politique, puisque je le disais tout à l'heure, vous avez été à la tête des Républicains pendant longtemps. Comment envisagez-vous de gérer justement cette image que vous avez de politique et cette nécessité d'ouvrir à tous les citoyens ?
Bah écoutez, moi je suis républicain, je l'assume et je n'ai aucun problème de l'assumer. Je mène une liste où il y aura des adhérents républicains dessus, il y aura aussi des gens qui ne sont pas encartés, qui adhéreront à mon projet politique, c'est-à-dire un projet de la ville, un projet qu'on construit ensemble, et donc forcément, quand il est entre guillemets participatif avec la liste, on y adhère plus facilement. Je n'arrive pas avec un programme imposé, j'arrive avec un programme qu'on construit, qu'on co-construit, chacun prend une thématique et la développe, et du coup, j'espère que de plus en plus de gens me rejoindront sur cette thématique-là. Mais en assumant ma couleur politique, c'est aussi j'assume mes choix, et vous savez où je vais. C'est, on peut pas être d'accord avec mon appartenance politique des Républicains, mais mon projet sera clair, et aussi sur certaines questions, vous savez quelles seront mes positions.
Voilà. Alors, justement, ce passé et ce présent politique, on y reste un petit peu, François Lietta, parce que dans la ville, la grande ville des Pyrénées-Orientales, Perpignan, il y a une élection municipale, là encore, qui se profile et qui semble particulièrement compliquée au vu de ce qui se passe récemment.
Oui, c'est vrai que... C'est vrai. Alors, moi, je regarde Perpignan parce que si demain je suis élu, il y a aussi derrière la communauté urbaine.
Bien entendu.
Et donc Perpignan a le plus grand nombre d'élus dans cette communauté urbaine. Et moi je pars aussi d'une certaine logique. Je pense que le maire de la ville centre, et qui est le plus gros contributeur à cette PCI que vous rappelez justement, qui est une mise en commun de moyens, me paraît très logique que le maire de la commune centre, et plus gros contributeur, soit également le président de la communauté urbaine. Donc, il est évident que je regarde cela avec attention, parce que derrière, ça a l'impact pour la commune de Saint-Laurent de la Salanque. De se dire, il faudra travailler avec une personne qui sera élue, quelle qu'elle soit. Donc, je le regarde. Après, on est encore un peu tôt. Qui pourra être en mesure d'emporter la ville en 2020, première question, donc on n'aura pas la réponse avant l'élection, mais quel sera le candidat les Républicains, puisque le maire sortant se réserve encore le droit de se représenter ou au contraire de ne pas y aller, et pour l'instant c'est un petit peu le suspense.
Oui, alors vous êtes carrément pour cette position-là, le maire de la ville-centre doit être le président de la métropole ou de l'aglo.
Moi ça me paraît...
Parce que c'est très discuté par certains.
Mais ça me paraît très logique parce que tous les territoires où ce n'est pas le cas, ça fonctionne pas. Moi, j'ai travaillé quelque temps dans les Landes. C'était le cas où il n'y avait pas le président de l'agglo, le président de la communauté de communes, pardon, qui était celui de la ville-centre. Et du coup, c'était de l'opposition systématique l'un à l'autre. Narbonne, vous connaissez bien mieux le sujet que moi. Mais je le vois. Je prendrai Carcassonne également. Donc, il faut aussi revenir aux sources de communautés de communes. Hein, ce sont des mises en commun de moyens. C'est pas des organes politiques au premier abord. Ça l'est devenu, malheureusement. Et donc, du coup, moi, ça me paraît logique que celui qui apporte le plus, à la fois en capitaux, à la fois en mise en commun de moyens et en matériel, puisse quand même diriger cette communauté urbaine, qui, encore une fois, sur le fonctionnement actuel où les maires restent les décideurs chez eux, ça me paraît tout à fait logique.
Et alors, un exemple concret quand même qui nous ramène à la précédente élection. Si je me souviens bien, M. Pujol avait fait, le maire actuel de Perpignan, avait fait campagne sur le thème « Je me présente à la mairie, mais je ne briguerai pas la métropole ou l'agglomération ». Et puis, lorsqu'il a été élu maire de Perpignan, il a changé d'avis et il s'est présenté et il a été finalement élu. Alors cette espèce de valse hésitation, qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Ouais, faudra plutôt lui poser la question à lui. Je pense qu'il a peut-être fait le constat qui est le mien, c'est de dire à partir du moment où vous dirigez la plus grosse ville de ce territoire et vous êtes le plus gros contributeur, il faut que vous en soyez aussi d'une certaine façon décideur. Je pense que c'est peut-être cela qui l'a fait changer d'avis. Est-ce qu'il aurait dû peut-être dès le départ en avoir conscience ? Certainement, oui. Mais après, les choses se sont décidées autrement. Après, je peux pas répondre à sa place. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, qui mise beaucoup sur la parole donnée. Donc, après, ça, c'est mon point de vue. Après, il faut aussi adapter parfois à certaines situations sur lesquelles on se retrouve confronté après l'élection. Parce que, encore une fois, après l'élection, il y aura d'autres rapports de force qui vont construire. Et ce sera pas forcément à Narbonne. Vous avez pas vu le cas en 2014. Quel sera le cas en 2020?
Oui. Figurez-vous que nous lui avions posé la question lors d'une émission, et c'est à peu près la réponse qu'il nous avait faite. Il a pris conscience après coup que finalement, ça serait peut-être pas le top, mais que ça serait le moindre mal pour lui, si lui était à la fois maire et voilà.
Donc, voilà, mais moi, ça me paraît logique. C'est comme ça.
En tout cas, la logique des institutions telles qu'elles sont aujourd'hui.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça que, pour ma part, je regarde l'élection municipale de Perpignan aussi. Je regarde un peu lointain, mais je regarde parce que, pour ma part, c'est le prochain maire de Perpignan pourrait être tout naturellement le prochain président de la communauté urbaine, quelle que soit sa couleur politique en réalité.
Oui. Alors justement, il y a quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre et depuis longtemps, c'est la présence forte du Front National ou maintenant du Rassemblement National sur cette ville, et notamment avec la personnalité de Louis Alliot. Bon, ça, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, ça fout la trouille à certains de dire « Monsieur Alliot pourrait peut-être un jour être maire de Perpignan ».
Je me souviens d'avoir lu une étude faite par un universitaire de Perpignan qui démontrait statistiquement, en fait, après, que justement aux prochaines élections, la probabilité que le Front National soit élu, effectivement, par son candidat, était très élevée, pour ne pas dire quasi certaine.
Alors, est-ce que vous partagez, François Lieta, cette analyse ?
Non, moi, je ne crains pas l'arrivée de Louis Alliot, si c'était le cas à la mairie de Perpignan. Je veux dire, si les électeurs le décident, il faut aussi s'en plier. Si Louis Alliot arrive demain à être maire de Perpignan, c'est que nous, la droite, nous n'avons pas été bons pour l'en empêcher. Donc, si les électeurs le décident, il faudra faire avec, et il faudra travailler avec lui. Parce que je pense qu'il y a un temps de l'élection, ou le temps où on se bagarre, et il y a un temps où on travaille. Donc si demain il est maire de Perpignan, il sera forcément un acteur incontournable de notre département. Donc je n'ai pas de crainte ni de peur, parce que tout simplement, c'est les électeurs qui tranchent. Et quand les électeurs ont tranché, ils sont souverains.
Oui. Alors là encore, la précédente élection avait donné lieu à une situation assez inhabituelle, c'est-à-dire que la gauche s'était désistée au deuxième tour. Je crois que c'était,
ils pouvaient se maintenir, ils l'ont pas fait.
Ils l'ont pas fait, et ceci afin d'aider la droite à battre le Front National. C'est bien ce qui s'est passé.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le candidat de gauche ne s'est pas maintenu, dit-il, pour justement ne pas permettre l'élection de Louis Alliot.
Immolé sur l'autel, en quelque sorte. Oui.
À l'inverse de ce qui s'est passé à Béziers.
Oui, voilà, ça a été deux cas d'école. C'est-à-dire à Béziers, il s'est maintenu, Robert Ménard a conquéré la mairie. À Perpignan, il s'est retiré. Le candidat du Front National n'a pas été élu. Bon, quelle sera la configuration aujourd'hui ? Je vous avoue, quand on voit les sondages, ils peuvent être à Perpignan 4. Voilà, au deuxième tour. Donc,
il peut y avoir une quadrangle.
Voilà, quel sera le véritable score du premier et quel sera le delta entre le premier et le second, et qui sera second. Oui. Voilà, je veux dire. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui aujourd'hui font que l'élection de Perpignan est pour moi une élection très ouverte et très incertaine, parce que déjà on ne sait pas si le sortant repartira. Et donc derrière, ça ouvre beaucoup de paramètres, parce que si le sortant se représente, on peut considérer que en étant sortant, on part avec un avantage. Si c'est un nouveau candidat, quid de son score.
Oui, et le sortant pourtant apparemment a beaucoup de mal ces temps-ci avec ses anciens collègues, que ce soit Romain Gros ou que ce soit M. Amiel. C'est ce qui ajoute à l'incertitude, peut-être.
Alors, je oui, il y a effectivement...
Et l'inspecteur général Laurent, qui est
lui aussi... Peut-être.
On parle beaucoup pour lui aujourd'hui, mais enfin depuis quelque temps, mais pour l'instant, il n'a rien exprimé. Mais alors, Romain Gros, c'est une vraie trahison politique parce que il a changé de parti pour partir avec en marche, tout en reniant aujourd'hui qu'il a été dans la majorité municipale. Ce qui est un peu différent d'Olivier Amiel, qui lui veut être candidat et qui vise l'investiture Les Républicains. Ira-t-il candidat jusqu'au bout s'il n'a pas l'investiture? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, qu'il ait envie, moi ça me choque pas d'être candidat. S'il est candidat investi, de toute façon il sera forcément candidat républicain. S'il est candidat non investi, il y aura un problème.
Ouais. Une remarque, Michel?
Une dernière question. En fait, je trouve que le maire de Prades, en fait, est très discret en ce moment, et surtout sur ces questions-là. C'est quand même une personnalité qui compte, quoi, hein, qui pèse dans le débat, philosophique et politique du département.
Jean Castex est effectivement une personnalité qui est importante dans le département parce qu'il a un aura aujourd'hui par ses fonctions au sein du comité, enfin de l'agence du sport maintenant, et comité olympique 2024. Après, Jean Castex, pour le côtoyer, est quelqu'un qui sait faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il sait, entre guillemets, se différencier le Jean Castex, le maire, et le Jean Castex, le haut fonctionnaire qui travaille. Et dans son raisonnement que je l'interprète, c'est que le haut fonctionnaire à qui on a proposé les JO 2024 ne pouvait pas refuser de les mettre en place puisqu'il est haut fonctionnaire au service de l'État. L'homme politique Jean Castex est un homme politique de Prades, éloigné de la métropole de Perpignan, qui dirige bénévolement, faut-il le souligner, une communauté de communes dans son territoire sur lequel il se concentre. Je pense qu'il faut le voir comme ça, et moi je le vois ainsi, d'autant qu'il a pris aussi conscience qu'il ne pouvait pas tout faire puisqu'aujourd'hui il ne préside plus le groupe au sein du département pour justement permettre à une autre personnalité de s'en occuper, même s'il le faisait très bien.
Voilà, eh bien écoutez, c'est sur Prades.
Voilà, qu'on termine. Qu'on va à bientôt à Saint-Laurent.
Voilà, terminer ce Radio Barque. Merci en tout cas,
merci
François Lietta, d'être venu nous aider à parler un peu plus des Pyrénées-Orientales et évidemment aussi de votre avenir politique, puisque cela est en jeu, je le souligne. Le prochain invité, alors nous changeons un petit peu d'étiquette, ça sera Yannick Séguier, qui est un historien et un cinéaste audois et qui vient de produire un film, L'Aude. Quelle histoire, nous évoquerons tout ça avec lui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.